Radio Okapi. Le journal Babel Pongo Masimango.
En ce 16 juin, journée de l'enfant africain, nous parlerons de la situation de ces enfants à Mbushima qui animent les cérémonies d'inhumation à la morgue comme au cimetière et aussi d'autres enfants à Kananga qui, eux, passent leur journée à laver des motos à la rivière Nganza. Nous serons à Beni. Une cinquantaine de femmes vulnérables viennent de suivre une formation sur leurs droits, la cohésion sociale, la masculinité positive et le mandat de la MONUSCO, une initiative de l'ONG AFNAC avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Le dialogue entre Congolais a fait hier la lecture de la manifestation de l'opposition dispersée vendredi à Kinshasa et des incidents qui l'ont émaillé. Les invités de Guy Maté ont aussi commenté les différentes réactions qui s'en sont suivies tant ici au pays qu'à l'international. Nous vous proposons quelques-unes de leurs interventions dans ce journal. Madame, Monsieur, bonjour. Avant de développer ces titres, sachez d'abord qu'au moins 808 cas de maladie à virus Ebola sont confirmés avec 192 décès en un mois de la déclaration officielle de l'épidémie dans les provinces touchées, à savoir l'Ituri, le Nord et le Sud Kivu. Le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, a livré ses statistiques hier lundi à Kinshasa. C'était lors d'un briefing de presse co-animé avec son collègue de la communication et des médias, Patrick Omuyaya. Il a souligné l'implication de la communauté dans la riposte en signalant les cas suspects voir les contacts en vue d'arrêter la propagation de cette épidémie. Le propos de Roger Kamba, recueilli par Blaise Shindani Kambala.
L'appel solennel que je fais ce soir, c'est vraiment d'abord aux communautés en général, mais surtout aux leaders communautaires, pour dire, engagez-vous pour expliquer à vos communautés que premièrement, ce n'est pas une maladie inventée, deuxièmement, ce n'est pas une maladie mystique, mais surtout, troisièmement, plus vous allez vous annoncer tôt, plus vous avez les chances de guérir. Parfois, les personnes pensent qu'ils doivent enterrer eux-mêmes leurs personnes décédées et au point même parfois de chasser les travailleurs de la santé. Et cela, malheureusement, c'est le plus grand risque parce que les rites communautaires, c'est le premier moyen de contamination. Et donc, un deuxième appel que je fais, cette fois-ci, c'est à tous les chefs coutumiers du nord de l'Ituri. Informer la communauté que les rites d'enterrement sont un moyen, c'est le plus grand moyen de contaminer tout le monde. Nous avons d'autres défis qui sont des défis logistiques, mais qui sont beaucoup moins importants pour l'instant parce que nous disposons d'énormément d'équipements. On a des défis, mais la riposte avance.
Le ministre de la Santé précise aussi que plus de 200 relais communautaires ont été déployés pour recenser les cas suspects pour les rapporter aux équipes de la riposte. Revenons à nos titres. Nous sommes le 16 juin, c'est la journée de l'enfant africain. La situation des enfants à Mbushima et au Kasa oriental est préoccupante. Dans les allées de la morgue comme au cimetière, des enfants parfois âgés de moins de 15 ans sont mobilisés pour animer les cérémonies d'inhumation, une pratique qui suscite l'indignation de nombreux habitants. Alors pourquoi ces enfants se retrouvent-ils dans ces espaces sensibles et qui les encadre? Élément de réponse dans ce reportage signé Esther Ndalafina.
À la morgue en Mbujima, ils sont là, instruments en main, certains à peine plus haut que leur trompette. Des enfants recrutés pour accompagner les familles enterrées jusqu'au cimetière. Une présence qui choque de nombreux observateurs. Christelle Kamoya explique.
Quand nous on était aussi enfants, quand on voyait les cercueils des gens, on nous disait non, quittez ici, allez-y entrer dans la maison.
Un enseignant, Joseph Kanyana, est même choqué de cette pratique.
Il est temps que les enfants sont à la morgue jusqu'au cimetière. C'est pendant les heures de pour commencer à jouer au tambour, ce qui n'est pas du tout normal, les enfants doivent étudier.
Pour ces jeunes, la motivation est souvent économique. Quelques billets gagnés à chaque prestation dans une province où la pauvreté pousse les familles à accepter l'inacceptable. Marie-Claire Mouya, coordonnatrice de Marcel Bourg, dénonce cette pratique.
Ce n'est pas un bon travail. On doit faire une sensibilisation à ces maisons-là qui utilisent les enfants. Au lieu que les enfants soient à l'école et utilisent les enfants pour un autre travail. Alors, nous disons non.
Pour François Mukendi, chef de division provinciale des affaires sociales, il s'agit de l'exploitation des enfants.
Il s'agit d'un cas d'exploitation à outrance des enfants. Alors nous allons faire des investigations.
Les organisations de protection de l'enfance appellent les autorités, mais aussi les familles à protéger les enfants. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Merci Esther. Et dans la ville de Kananga, au Kasaï central, certains enfants passent leur journée à laver des motos à la rivière Nganza, une activité qui leur permet de gagner un peu d'argent. Cependant, beaucoup d'entre eux ne fréquentent pas l'école. Même ceux qui y vont éprouvent de difficultés à réviser leurs leçons. André Katendengala Moulumi s'est penché sur cette situation. Son reportage.
À la rivière Nganza, des dizaines de motos sont stationnées. Parmi les laveurs de motos, on retrouve plusieurs enfants âgés de 11 à 17 ans. Ces derniers expliquent qu'ils exercent cette activité pour subvenir à leurs besoins. Certains affirment avoir abandonné l'école faute des moyens financiers. D'autres qui poursuivent encore leurs études reconnaissent qu'ils n'ont plus que plus de temps pour réviser leurs leçons après les cours.
J'ai abandonné l'école faute de moyens financiers. Je lave ces motos pour subvenir à mes besoins. Je lave les motos pour gagner un peu d'argent. Je vais d'abord à l'école. Après les cours, je viens travailler ici.
Préoccupés par cette situation, les coordonnateurs de la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves, Lisadel, estiment que cette situation compromet l'avenir de ces enfants. Jean-Malice Lungala plaide auprès du gouvernement provincial pour que des mesures soient prises afin que ces enfants retournent sur le banc de l'école.
Nous allons continuer toujours à faire les plaidoyers auprès des autorités compétentes pour que ces enfants soient pris en charge et réintègrent l'école.
Jean-Malice Lungala appelle également les parents à plus de responsabilités. Kananga, André Katendengala Moulumi, Radio Kapi.
Le ministère de l'Éducation nationale veut faire de l'école un véritable espace de formation des citoyens à travers le pays. C'est dans ce cadre qu'il organise du 15 au 30 juin à Kinshasa un atelier d'élaboration des outils pédagogiques et de suivi et évaluation des clubs d'éveil citoyens dans les écoles. Avec l'appui de la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes au CIAVAR, cette session vise à produire des outils pédagogiques harmonisés capables d'encadrer l'animation de ces clubs dans les établissements scolaires. Les détails avec Blaise Dongala.
Ces travaux portent sur quatre grands blocs thématiques, à savoir le patriotisme, la mémoire nationale, l'engagement communautaire et le développement solidaire. Le secrétaire général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté s'est réjoui que les jeunes Costes figurent parmi les sujets à aborder au cours de cet atelier. Il explique également que ces thèmes contribuent à renforcer chez les élèves le patriotisme, la conscience historique ainsi que le sens des responsabilités envers eux-mêmes, envers les autres et envers la nation. Les représentants de la CIAVAR a pour sa part expliqué l'essence et l'importance de l'installation des clubs d'éveil citoyennes dans les établissements scolaires de la RDC.
Le club d'éveil citoyen sont des espaces où les élèves apprennent à aimer leur pays, à respecter les autres.
De son côté, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et des nouvelles citoyennetés encourage les participants à produire des outils pédagogiques clairs et simples et adaptés à la compréhension des élèves.
Nous pourrons voir émerger une génération des jeunes capables de défendre la dignité humaine, de protéger les biens publics, de refuser la violence, de résoudre les conflits par le dialogue. Ce résultat dépendra de la qualité des outils que vous allez produire.
Cet atelier vise surtout à réunir l'éducation à la mémoire, la citoyenneté à l'action et l'école à la construction d'une république plus unie, plus responsable et plus forte.
À l'occasion de la Journée internationale des pères célébrée le 15 juin, l'ONG Action pour la lutte contre les violences faites à l'homme par la femme a organisé samedi à Kinshasa une conférence débat autour du thème « Le matriarcat, avantage face aux violences faites à l'homme par les femmes ». Cette rencontre a réuni des acteurs de la société civile, des chercheurs et des citoyens venus réfléchir sur la place de l'homme dans la famille et la société, ainsi que sur les mécanismes de prévention des violences dont il peut être victime. Nancy Atambo nous en parle.
Cette conférence débat a réuni des acteurs de la société civile, des chercheurs et des citoyens autour de la place de l'homme dans la famille et la société. Selon le chargé de communication de l'ALVHF, Monsieur Patrick Sinker, cette rencontre a offert aux participants l'occasion de s'exprimer librement.
L'ONG a une grande vision, c'est celle de révaloriser la dignité de l'homme dans son intégrité, comme l'a été auparavant.
Les participants ont salué cette initiative qui leur a permis de mieux comprendre les différentes formes de violence pouvant affecter les hommes.
Effectivement, les hommes subissent beaucoup de violences actuellement, mais on n'en parle pas.
Pour Georgine Gakoumbi, présidente de l'ONG, l'objectif est de sensibiliser la population à cette problématique et de favoriser une meilleure compréhension du phénomène.
On parle seulement de la femme qui est victime de violences de la part de l'homme, mais on oublie que l'homme aussi est victime. Nous faisons des ateliers en train de sensibiliser mobiliser pour que nous puissions arriver là où nous sommes aujourd'hui en train de célébrer la journée internationale des pères.
Les organisateurs estiment enfin que ce type d'échange contribue à renforcer les dialogues et le respect mutuel au sein de familles.
Dans la ville de Béni, une cinquantaine de femmes vulnérables ont été outillées hier lundi sur leurs droits, la cohésion sociale, la masculinité positive ainsi que sur le mandat de la MONUSCO. C'est dans le cadre d'une activité organisée par l'ONG AFNAC en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et c'est dans le cadre aussi d'un projet qui porte sur le relèvement socio-économique des femmes et des filles vulnérables, y compris de retourner dans le contexte post-conflit. Bengue Mukengere, coordinatrice de l'organisation AFNAC, revient sur l'importance de cette initiative. Elle est au micro de Marc Maroufimbo.
Les femmes avaient besoin d'un soutien pour qu'elles puissent être formées en activité génératrice de revenus. Nous sommes en train de les former aussi sur les droits des femmes, sur la cohésion sociale et aussi sur l'implication de la femme dans la recherche de la paix en ville de Beni et aussi sur leur autonomisation. Certaines ont choisi la coupe de couture, d'autres ont choisi la pâtisserie, d'autres ont choisi les petits commerces comme les friperies, la vente des tomates, vente des braises, vente des farines de manioc. En tout cas, elles sont en train de se développer. Et nous remercions vraiment notre partenaire, la MONUSCO. Nous supplions beaucoup à notre partenaire de continuer à aider les femmes parce qu'autonomiser une femme, vraiment, c'est amener la paix. Autonomiser une femme, c'est élever le niveau de vie des femmes. On a compris que nombreuses n'ont pas étudié, mais par rapport à la formation professionnelle, ça aide aussi la femme à être autonome et aussi à s'impliquer dans les activités de développement de notre pays.
Notez que les bénéficiaires sont des femmes vulnérables du quartier Boïkéné. Des acteurs sociopolitiques et des activistes de droits de l'homme dénoncent des messages de haine dans ces victimes. Selon eux, les ressortissants du Nord et du Sud Kivu dans les territoires de Djougou en Ituri. Dans une déclaration hier dimanche, ils disent avoir constaté avec regret la circulation sur les réseaux sociaux des messages audio accusant ces Congolais d'être à la base de la propagation de la maladie à virus Ebola dans cette entité, ce qui constitue un réel danger à la cohabitation sociale, affirme-t-il. Martial Kisabiamungu.
De nombreux jeunes originaires du Nord et du Sud Kivu exercent des petits métiers dans plusieurs entités du territoire d'Ndjougou, notamment à Iga Barrière, Lopa, Mabanga, Mungwalu, ou plutôt, selon des acteurs sociopolitiques et des activistes des droits de l'homme, depuis une semaine, ces Congolais sont victimes des actes à caractère xénophobe, accusés d'avoir importé le virus d'Ebola dans les territoires d'Ndjougou. Lick Malembe, du parti politique Agir Républicain pour la Renaissance du Congo, ADRC juge inacceptable ce genre de message. Il appelle la justice à se saisir de ces dossiers afin que les auteurs répondent de leurs actes.
Nous condamnons vivement ces actes de xénophobie et nous mettons en garde les auteurs parce que nous sommes en train de réunir tous leurs messages d'appel à la violence. Et nous allons remettre tout ça à la justice.
Il y a quelques jours, la procureure générale près la cour d'appel de l'Ituri a mis en garde toute personne qui propagerait des fausses informations sur l'épidémie d'Ebola sur les réseaux sociaux. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
La décision de relancer le processus de rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains et congolais de le mois de juillet issus des assises tenues à Kinshasa entre la RDC, la RCA et le HCR est perçue comme un signal d'apaisement et de satisfaction dans les zones frontalières où les populations vivent depuis plusieurs années sous forte pression humanitaire. Pour la députée nationale Krasnima Panillé, élue d'Ango et de Obazuele, question adjointe de la Chambre basse du Parlement, cette avancée vient concrétiser des démarches de longue date en faveur d'un retour organisée et digne des réfugiés. Elle souligne qu'à ce jour, le village frontalier de Zapaï entre la RDC et la RCA accueille plus de 200 000 réfugiés dans des conditions de vie devenues invivables. Grâce Neymar, dans cet extrait proposé par Grâce Hamzati.
Je suis élue de Ango, qui est frontalier avec une partie de la RCA. Ce village commun s'appelle Zapaï. C'est un village qui n'a pas la capacité d'accueillir même 5 000 personnes. Depuis l'année passée, nous avions commencé à alerter et voir cette rencontre d'aujourd'hui, ça prouve à suffisance que nos démarches ont quand même abouti. Nous remercions notre gouvernement, nous remercions aussi les autres pays voisins. Ils ont donné la priorité à la sécurité frontalière. Il y aura une solution qui sortira de ces assises, qui va quand même essayer d'apaiser la population du Bazuélé et Sud-Ubangi, Nord-Ubangi qui a tant souffert. Parce que c'est un danger Et ça, je demande à tous les services au niveau provincial qu'ils veillent vraiment à ce que la population de la province soit remise dans ses droits. Et ça sera une très bonne chose et ça va encore rassurer cette population qui vit en détresse, dans une détresse prolongée. Et je continue aussi à plaider pour que le gouvernement renforce encore une fois de plus la sécurité de ces côtés-là.
Et puis en prélude à la télé nationale de validation des aires protégées, une délégation du ministère de l'aménagement du territoire séjourne à Kindu dans le Maniema. Selon le directeur en charge du développement spatial à ce ministère, l'objectif est d'identifier, de récolter les données et de faire la cartographie sur les conflits autour des aires protégées. On écoute le professeur Baïda Ngoy, directeur en charge du développement spatial au sein du ministère de l'aménagement du territoire, dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
C'est une mission qui devrait se passer dans trois zones à conflit autour des aires protégées. Donc il y avait la Tchopo, l'Équateur et le Maniema. Pour la Tchopo et l'Équateur, ce sont les étapes qu'on a déjà franchies. L'identification, récolte des données et même la cartographie sur les conflits autour des aires protégées. Il restait le Maniema afin qu'on fasse l'atelier national pour valider toutes ces données au niveau de Kinshasa. Ça sera la semaine du 30. C'est pourquoi nous sommes descendus ici au Maniema pour identifier tous ces conflits autour des aires protégées. Nous allons récolter les données relatives, c'est-à-dire quelles sont les causes, qui sont les acteurs, où se localisent réellement ces conflits, et même faire une cartographie de manière à présenter cela à l'atelier national de validation. Les aires protégées, c'est tout ce qui est aires protégées à les conflits tels que le parc de Maïko, le parc de la Lomami, il y a une même Kahuzi-Bienga qui pénètre au niveau des KCC, il y a les forêts communautaires, tout ce qui est aires protégées où il y a les conflits, nous allons pouvoir les identifier. Vous savez que quand les aires protégées ne sont pas réellement protégé par ces conflits. Parce que ces conflits-là, ça permet à ce qu'on exploite d'une manière illégale, même les richesses naturelles qui sont dans ces aires protégées.
Actualité internationale.
Cameroun, l'ex-candidat à la présidentielle Chiroma Bakary a annoncé vendredi avoir déposé deux plaintes contre le président Paul Biya et une vingtaine de hauts responsables au tribunal judiciaire de Paris, invoquant les principes de compétence universelle. L'ancien ministre, actuellement en exil en Gambie, dénonce la répression des manifestations contre l'élection présidentielle du 12 octobre 2025.
L'invité.
Le dialogue en congolais a fait hier la lecture de la manifestation de l'opposition dispersée vendredi à Kinshasa et des incidents qui l'ont émaillé. Les invités ont aussi commenté les différentes réactions qui s'en sont suivies tant ici au pays qu'à l'international. Voici quelques-unes de leurs interventions au micro de Guy Maté.
Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, vous êtes député national honoraire, vous êtes premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement SID en sigle, les partis membres de la coalition Lamuka, vous êtes également un notable de la province du Nord Kivu. D'abord, à ce jour, quel est le bilan de la répression de ce vendredi lors des sit-ins que vous avez organisés, vous de l'opposition?
Voici les bilans provisoires, rien que pour les SID. D'abord, il y a eu deux corps qui ont été emportés, l'un par force de progrès qui l'aurait mis à la police devant le boulevard Triomphal, c'est le corps de M. Kabeya Ngadiadia. Ensuite, sur l'avenue de l'enseignement, un militant qui a sauté les murs du siège de l'ECID a reçu une balle au tronc, une balle tirée par un élément de la garde républicaine. Il est tombé et la garde républicaine a emporté son corps. Raison pour laquelle l'ECID a parlé de deux morts.
Parmi les morts, la personne qui a été identifiée, c'est Kabeya Ngadiadia.
Kabeya Ngadiadia.
L'autre, vous ne connaissez pas son nom.
Le nom n'est pas encore connu.
Mais vous êtes certain qu'il est mort.
Nous avons des témoignages. Il est tombé. Il y a un camarade militaire de l'ECID qui l'a tiré pour le sauver pendant qu'il respirait encore. Les éléments de la garde républicaine ont avancé vers lui. Le camarade a abandonné l'autre qui était Giza, et à son retour, il a demandé à ceux qui étaient dans l'entourage qui lui ont donné le témoignage que les éléments de la garde républicaine l'ont emporté. Alors, nous avons également 13 personnes qui manquent à l'appel. À part cela, nous avons 147 blessés graves. Parmi ces 147 blessés graves, Martin Fayoulou est visé à la tête. Delice Sanga, visé au niveau des parties intimes. Kabound de même. Nous voyons un caractère ciblé dont l'objectif est de neutraliser, rendre impotents les dirigeants de la coalition 164 avec objectif de neutraliser la contestation.
Merci Peter Kazadi, vous êtes avocat, vous êtes député national, élu de la ville de Kinshasa et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Que répondez-vous à toutes ces accusations de l'opposition?
À ce que j'ai compris, mon frère Katsekwa, il est en train d'accuser les pouvoirs qui auraient envoyé la police et que cette dernière serait aussi accompagnée de ce qu'ils ont identifié comme les forces du progrès de l'IDPS. Ici, je tiens à dire que la police ne travaille pas avec des civils. Mais ce que je sais en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, mais aussi en tant qu'ancien de l'opposition comme eux, il y a deux parties de la police. Il y a la police visible et la police qui se dissimule dans la foule pour essayer d'isoler les meneurs des troupes.
La police qui se dissimule dans la foule, elle est en civil.
Elle est en civil. Si Jean-Marie a fait l'opposition avec nous, il doit le savoir. Et c'est une stratégie qui s'est faite partout au monde.
Les policiers en tenue civile qui avaient des gourdins, des machettes, c'est toujours des policiers.
Mais gourdin, ça fait partie des matériels de la police, non?
Machette, pierre.
Et par contre, j'ai vu parmi les manifestants de l'opposition des gens avec des machettes toutes neuves.
Merci Christian Moleka, vous êtes analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Quelle est votre lecture de cette situation?
Ben, la lecture, c'est que nous sommes en train de prendre un cran de plus. On est passé de l'escalade verbale aux villes mortes et aujourd'hui, le cran, il nous amène vers cette logique de confrontation dont tout le monde redoutait et éventuellement des scénarios de plus en plus violents. À la fois la confrontation dans la rue, à la fois par la mobilisation des services de sécurité et qui nous rappelle les drames de 2015, 2016, 2017. Donc le scénario, il était prévisible et puisque la logique reste celle du rapport de force, on l'a rappelé plus d'une fois ici, et qui dit rapport de force dit confrontation.
L'objectif de ces sit-ins, hein, selon l'opposition, était de pousser les Sénats à abandonner l'examen de la proposition de la loi portant organisation du référendum en RDC. Et si les Sénats adoptaient ces textes dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale, à votre avis, quels seraient les moyens qui resteraient à l'opposition pour poursuivre son action?
Bon, le schéma n'est pas différent de 2016, c'est-à-dire qu'au niveau institutionnel, il n'y a pas match parce que la majorité présidentielle dispose de la marge nécessaire pour qu'au niveau institutionnel, ils puissent faire passer les lois qu'ils souhaitent. Et donc, tout dépendra de la capacité de l'opposition à mobiliser suffisamment la population pour amener un rapport de force qui bougerait la logique institutionnelle. Et donc, tant que la majorité ne se sentirait pas bousculée par une mobilisation populaire, eh bien, ils resteront dans leur logique institutionnelle de continuer à avancer.
Vous pouvez suivre l'intégralité de ce numéro de Dialogue entre Congolais sur DIRlandais sur www.radiocapi.net et sur toutes les plateformes numériques de Radio Capi. Fin de ce journal, Jude Mista Bilandala préparé, Pierre Gassino la mise en honte. Merci de nous avoir suivis et bonne journée.